De quelle église? Philadelphie. Et puis, Sardes. Alors Sardes, sa particularité, c'est quoi? Apparence de vie. Et Philadelphie, c'est très important, Philadelphie. L'église missionnaire. Voilà. Et Philadelphie et Laodicée que nous allons voir ensemble, ce ne caractérise pas deux périodes différentes de l'histoire de l'église, mais Philadelphie et Laodicée caractérisent la même période. Un aspect de l'église de la fin des temps qui est une église missionnaire, qui prend conscience qu'il faut aller au-delà. Et puis, Laodicée, donc, nous allons en parler maintenant. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cette ville avait comme nom d'origine Diospolis, c'est-à-dire la cité de Jupiter. Donc, quasi totalement consacrée à cette divinité païenne. Et après sa conquête par Antiochus II, 250 ans avant Jésus-Christ, elle a été rebaptisée en l'honneur de la femme du conquérant qui s'appelait Laodicée. Et c'est ainsi que on trouve l'église de Laodicée. C'était un centre commercial réputé pour son industrie textile, pour ses tapis, ses vêtements en laine de Phrygie. Il y avait aussi des cures thermales, une école de médecine de renom qui était spécialisée dans les soins pour les yeux, et on appliquait un collier fameux que l'on fabriquait à l'aide d'une poudre nommée le baume de Phrygie. C'était une ville extraordinairement riche. Et comme je l'ai dit, je ne sais plus quand, pas hier, avant-hier peut-être, sur les sept églises de l'Apocalypse, qui se trouvent donc toutes les sept en Turquie actuellement, la dernière qui a été, disons, mise en fouille par les archéologues, c'est l'église de Laodicée. La première année où je suis allé en Turquie, c'était en 2001, et il n'y avait rien. On nous a dit, voilà, il y a une grande colline, et sous cette colline doit se trouver la ville de Laodicée. Et la dernière année où j'y suis allé, c'est il y a 3 ans, je crois, 2012, 4 ans. Donc, les fouilles étaient déjà bien avancées, elles se continuaient, et j'ai trouvé que c'était vraiment fabuleux. Autant Éphèse est assez exceptionnel, autant là, quand ils auront terminé, je pense que ça sera encore plus majestueux que les ruines d'Éphèse, parce qu'il y a encore des bâtiments où le marbre n'a pas été pillé, et il est encore fixé sur les bâtiments. Pas toujours en totalité, pas sur tous les bâtiments, mais c'est la première fois dans des villes de l'époque, eh bien, où on retrouve le marbre fixé donc sur les bâtiments, ce qui donne, eh bien, une beauté d'ailleurs très exceptionnelle. Elle était très riche. Elle était très célèbre pour ses opérations bancaires. Et en l'an 60 de notre ère, elle a été partiellement détruite par un tremblement de terre. Et les gens de la ville ont refusé l'aide du gouvernement romain pour la reconstruction. Ils ont touché dans leur propre bas de laine, sur leur propre réserve, et ils ont fait face à ce grand défi de reconstruire par eux-mêmes, eh bien, la cité, de financer la reconstruction. Et ça, c'est quand même aussi exceptionnel. Pour l'église de Laodicée, eh bien, nous savons que Paul fait allusion à Laodicée. Et dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, il va dire « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. » Donc il écrit aux Colossiens, donc il mène un combat dans la prière pour eux. Quand il écrit aux Colossiens, Paul est emprisonné, mais il parle aussi de Laodicée, et il dit qu'il mène un grand combat pour les gens de Laodicée. Et comme nous l'avons précisé pour Philadelphie, l'église de Laodicée ne représente pas une nouvelle période de l'histoire de l'église, mais disons, c'est la même période. Philadelphie, c'est l'église faible, c'est l'église spirituelle, c'est une église avec un amour sincère, une église sans reproche, et c'est l'église missionnaire. Laodicée, eh bien, c'est celle qui a perdu sa ferveur. Le terme de Laodicée est composé donc de deux parties, Laos, peuple, et Diké, qui veut dire droit, ou justifié, ou vengeance. Cela peut signifier droit du peuple, domination du peuple, ou vengeance du peuple. En fin de compte, c'est l'Église qui est prête à satisfaire les droits de l'homme plutôt que ceux du Christ, à démocratiser à l'excès, à justifier les aspirations du peuple et à exercer elle-même la justice, voire la vengeance, à la place de Dieu. Et quand on regarde un petit peu dans notre société d'aujourd'hui, et on se rend compte que on touche du doigt un petit peu cette mentalité. On nous parle de démocratie, et on souhaite que la démocratie, eh bien, s'applique partout. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas régie par la politique humaine, elle est quand même régie par le message de la Bible, par les principes bibliques, par la doctrine biblique. Et il ne faut pas perdre de vue, eh bien cela. Le Seigneur va toucher au caractère spirituel de cette Église. Et ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a pas d'excès. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ils sont pas froids, et ils sont pas bouillants. En fin de compte, ils sont tièdes. Et la Bible parle de ceux qui ont le cœur insensible comme de la graisse. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé de prendre une boule de graisse, de la mettre dans le creux de votre main, et puis vous serrez les doigts comme ça, et puis au bout du compte, vous retenez rien du tout, hein. Parce que la graisse, elle va passer entre vos doigts, ça va vous échapper. Si vous prenez un caillou, vous serrez, vous allez le tenir dans votre main. La graisse, c'est pas ça. Et l'Écriture parle de ceux qui ont le cœur insensible comme de la graisse. Et Laodicée, eh bien, c'est un petit peu cette image-là. C'est-à-dire que de n'importe quel bout par lequel on veut le prendre, on n'arrive à rien. Il nous échappe. Voilà. Et c'est ainsi qu'il est dit, puisses-tu être froid ou bouillant ? Avec quelqu'un qui est froid, il y a des raisons d'espérer. Avec quelqu'un de bouillant, à plus forte raison, il y a des raisons d'espérer. Mais avec quelqu'un qui est tiède, eh bien c'est assez compliqué. Et c'est une situation moyenne qui va entraîner un jugement. Je te vomirai. L'image, elle est très forte. Je te vomirai. C'est pas je te mettrai de côté. Je te mettrai, disons, en quarantaine. Non, je te vomirai. Avec tout ce que ça peut représenter, eh bien, de dégoûtant. Et le Seigneur va souligner également ses illusions. Parce qu'en général, celui qui est tiède, il se nourrit d'illusions. Et il va dire, parce que tu dis, il se fait son petit film à lui. Il se raconte sa petite histoire à lui et il y croit dur comme fer, comme l'on dit. Parce que tu dis, elle se juge et se mesure à sa propre mesure. Elle a ses propres références, mais ça correspond pas à l'étalon divin. Ça correspond pas à la toise divine. Ça fait penser un petit peu à celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2, celui qui en a reçu 1. Celui qui en a reçu 5, l'Écriture nous dit que aussitôt, il s'emploie à faire fructifier les 5 talents. Celui qui en a reçu 2, aussitôt, il y a le mot, il s'emploie à faire fructifier les 2 talents. Et celui qui en a reçu qu'un, bon, il n'est pas dit aussitôt, mais lui, il fait un trou et il le cache. Bien content qu'il se souvienne où il a fait le trou plus tard. Et quand le maître revient, ben, celui qui en a gagné 5 lui dit, voilà, maître, bon et fidèle serviteur. Celui qui en avait reçu 2, il en a gagné 2. Bon et fidèle serviteur. Et l'autre, eh bien, il revient avec son talent et il dit, parce que je sais que tu es un maître dur, ne qui récolte, qui moissonne, ou tu n'as pas semé. Hein? Et le maître, qu'est-ce qu'il dit? Ôtez-lui le talent et même ce qu'il pense avoir. Alors bon, ce qu'il pense avoir, c'est quoi? À mon avis, c'est ses illusions, ses rêves. Il s'est imaginé que... Eh bien, même ça, ça lui est enlevé. Il se retrouve tout nu, sans plus rien. Et là, eh bien, parce que tu dis, voilà, il se raconte une histoire et il la trouve sympathique, leur histoire. Sauf que, aux yeux de Dieu, ça ne tient pas. Le croyant fidèle, il n'a pas ses propres étalons. Vous savez, moi je suis d'Afrique, moi je suis d'Asie, moi je suis de Corse, moi je suis d'ici, moi je suis d'ailleurs. En fin de compte, quand on est né de nouveau, il y a quand même certaines choses qui doivent disparaître. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, mais nous on est de Marseille, vous comprenez, à Marseille. Ben oui, t'es de Marseille, mais bon. Si tu es né de nouveau, t'es toujours de Marseille. Et t'as une nature nouvelle. Hein? Un jour, c'est quelqu'un qui a dit à ma femme... quelque chose, et ma femme lui répond, tu m'as menti. Et la personne, c'était une jeune fille, elle devait avoir 12 ou 13 ans ou 14 ans, elle lui dit, mais non, j'ai pas menti, j'ai juste exagéré. C'est vrai qu'elle est vraiment marseillaise, elle. Eh bien oui, mais l'exagération, c'est pas la vérité. Et à partir du moment où c'est pas la vérité, ben on n'est plus dans le coup. Et... En tant que chrétien, je veux bien que notre éducation, nos nationalités, nos racines, etc., puissent quand même jouer un certain rôle. Mais à un moment donné, on est une créature nouvelle. Et c'est pas parce que je suis d'ici, de là ou d'ailleurs, eh bien que je vais me servir des étalons de ces régions, de ces pays, de ces cultures. Mon étalon maintenant, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cet étalon de base, la parole de Dieu, et non pas mon propre cœur. On pourrait penser que certains puissent dire, vous savez, moi j'ai ma conscience pour moi. Mais la conscience, c'est pas le bon étalon, hein. Bien sûr que la conscience peut, de temps en temps, nous interpeller. Je vois quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal, et ma conscience, elle peut me travailler. Mais on parle aussi de la conscience élastique. Et à force de tirer dessus, voilà. Et puis la conscience, elle peut être morte. Prends juste un exemple. David, quand il a coupé le pan du manteau de Saül dans la caverne d'En-Gedi, son cœur s'est mis à battre. Il touchait au manteau du roi d'Israël, choisi de Dieu pour être roi. Et il a été saisi d'une émotion juste de toucher un manteau. Et puis des années passent. Ses soldats sont à la guerre. Bon, lui, c'est un homme de guerre, mais je ne sais pas pourquoi, il est resté au palais, et il ne trouve pas le sommeil. Alors il va prendre l'air, et sur le toit terrasse d'un bâtiment de son palais, il prend l'air, regarde les étoiles, pense à ses soldats, et puis en tournant ses regards comme ça, waouh, ses yeux se portent vers une femme qui est sur une autre terrasse et qui est en train de prendre l'air, de prendre son bain, je ne sais. Et ce qui devait arriver, arrivera. Et quelques jours plus tard, il découvre que la femme, elle est enceinte. Waouh, comment on fait ? Alors il décide de faire donner une permission à son mari qui est à la guerre. Et le mari, waouh, il a une permission, c'était pas prévu, et il revient à la maison. Donc la logique voulait qu'il ait une relation avec son épouse. Mais lui, il est tellement pris par la guerre, par ses soldats, par, eh bien, que il veut pas user de cet avantage. Et il repart, la permission terminée. Et David se renseigne. Alors, ben non. Waouh, comment on va faire là? Donc, il décide de donner quelques ordres pour que cet homme, cet officier, soit mis dans une patrouille extrêmement dangereuse. Et il y avait 99 chances, 99, pour que cette patrouille soit anéantie. Et c'est ce qui va se passer. Et le mari, eh bien, il meurt. Alors il a un enterrement avec les honneurs militaires, les médailles de l'époque, un joli discours. Et David, il épouse la veuve éplorée. Ni vu ni connu. Et le temps passe. Où est la conscience de David là? Elle n'est même pas élastique. Elle est morte. Toucher le vêtement du roi, ça lui fait battre son cœur, mais regardez la succession d'événements extrêmement graves, et il ressent rien. Aucune émotion, aucune sensibilité, c'est un calcul froid. Sa conscience ne l'interpelle pas, il l'a non seulement étouffé, mais il l'a tué. La conscience n'est pas en mouvement, il faut que ça soit le prophète qui viennent et qui lui disent, David, j'ai une histoire à te raconter. Eh bien, vas-y, raconte. Un homme riche, il a des centaines de moutons, de troupeaux. Il y a des amis qui sont arrivés à l'improviste chez lui. Il veut leur faire un méchoui, mais il veut pas toucher à une de ses brebis. Alors, il est allé chez le pauvre, qui habite au coin de la rue, là. Et il lui a pris sa brebis. Il en a qu'une. Et il aime tellement sa brebis que, même parfois, elle se met dans son lit. Bon, il y en a qui dorment avec leur chat, mais là, c'était une brebis. Et quand David a entendu ça, il dit, mais qui est cet homme? Il mérite la mort. Eh bien, cet homme, c'est toi. Ah oui. Tu as des femmes, tu as des concubines, et t'es allé chercher l'autre. Et là, sa conscience, elle a ressuscité d'un coup, hein. Donc, notre conscience n'est pas suffisante pour dicter notre marche, pour dicter notre choix. Je ressens, il me semble que mon intuition... Non, il y a la parole de Dieu. La juste appréciation, c'est Dieu qui la porte. Et l'Odyssée a voulu faire ce que Dieu seul, eh bien, est capable de faire. La vision de Dieu est tout autre que celle des gens de cette église. Mais c'est la vision de Dieu qui est juste. Veillons à ne pas devenir tiède. J'ai déjà cité cette image. On peut faire couler son bain, je crois que c'est dimanche matin, on peut faire couler son bain, il peut être bouillant, on peut mettre les sels que l'on veut, et puis on se met, voilà, et puis, pop, on s'endort. Et puis on se réveille avec une pneumonie. Parce que l'eau, eh bien, elle s'est refroidie, on s'en est pas rendu compte. Et la tiédeur, ça arrive pas comme ça en 2 secondes. C'est petit à petit, c'est une accumulation. Et on finit par s'habituer à certaines pratiques, à certaines attitudes, à certaines tournures de phrases, à certains comportements. On s'en rend pas compte. Et il faut que d'un coup, il y ait un petit peu comme un électrochoc pour qu'on dise, waouh, où je suis arrivé. Donc, nous sommes invités à veiller. Il faut que nous puissions veiller à ce qu'il n'y ait pas cette baisse de température spirituelle dans notre propre cœur. Cette ville, elle avait une particularité. C'est que, à Laodicée, il n'y avait aucune source d'eau. Ce qui, pour l'Antiquité, en particulier, était assez rare. D'ailleurs, en général, où que l'on aille, c'est très très rare qu'une ville, un village, un hameau, puisse s'établir, se bâtir, se développer là où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de source d'eau. Et à Laodicée, il n'y avait pas d'eau. Par contre, ils avaient construit un aqueduc. Et si vous allez dans la région, eh bien, vous allez voir quelques restes de cet aqueduc. Et l'eau de pluie qui tombait sur les montagnes avoisinantes était récupérée et l'aqueduc amenait cette eau, donc, à Laodicée. Il y avait une 20aine de kilomètres entre les montagnes et la ville. Et lorsque l'eau arrivait, en fin de compte, elle était tiède et elle était sale. Parce que c'est une région où il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas de forêt. Quand il y avait du vent, ben, il y avait la poussière. Et puis, il y a des périodes où il fait très chaud. On arrive à 40, 42, 44 degrés. Donc, quand l'eau avait fait ses 20 kilomètres là-haut de la montagne, elle arrivait et elle était quelque peu polluée. Donc, ils s'en servaient pour le bétail, ils s'en servaient pour leurs champs, ils s'en servaient pour diverses cultures, pour leurs jardins. Et si quelqu'un avait franchement soif, eh bien, peut-être qu'il essayait d'en prendre un petit peu, mais il a recraché. Et quand Dieu leur dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Nous, tout de suite, là maintenant, vous avez compris, mais ça nous fait pas beaucoup d'effet. Mais eux, ils ont parfaitement compris. Parce que cette eau tiède, ils l'a crachée, ils l'a vomissée, ils l'a rejetée. Pour eux, c'était pas consommable. Il fallait autre chose. Et quand il est dit, puisses-tu être froid ou bouillant? En fin de compte, vous avez les ruines de la Odyssée qui sont là, et légèrement à quelques kilomètres sur la gauche, vous avez Hierapolis. D'ailleurs, dans la même épître aux Colossiens, Paul va parler, eh bien, d'un de ses compagnons, et il va dire ceci: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Hierapolis, c'est assez particulier, parce que c'est une région où il y a des sources d'eau chaude. Quelqu'un est allé en Turquie ici? Non. Quand vous arrivez dans cette région, de très loin, vous distinguez une sorte de colline, et sur une très grande surface, comme si vous étiez là sur la colline où il y a la tour, et vous arrivez là par l'autoroute, vous commencez à voir le bas de Manosque, et puis vous voyez la tour qui est là, et comme si cette colline était toute blanche. On pourrait soupçonner qu'il s'agit de la neige, mais bon, c'est pas possible vu la température, mais c'est tout blanc. Et en fin de compte, les sources d'eau chaude sortent de plusieurs endroits dans cette colline, et le blanc, c'est le calcaire qui s'est accumulé au fil des siècles. Et ça coule, et après il y a une sorte de c'est un peu comme la mer de glace, là. Ça s'en va, et il y a de grandes vasques. Et si vous allez visiter, eh bien, vous pouvez, dans deux ou trois encore, vous baigner, c'est autorisé. Mais vous pouvez faire le chemin en remontant votre pantalon, et vous pouvez marcher dans de l'eau qui est supportable, un peu plus que tiède, parce qu'elle a déjà dévalé. Et ils avaient mis quelques hôtels pour des cures thermales, mais bon, ça s'est partiellement arrêté pour préserver, eh bien, le cadre. C'est très typique. Hierapolis, il y avait les sources d'eau chaude. Et sur la droite, vous avez la ville de Colosse. Donc, il est question, ça se tenait, c'était trois grosses villes qui étaient côte à côte. Donc, la ville de Colosse, où là, il y a des sources normales, mais qui sont des sources d'eau froide. Donc, la Odyssée est au milieu, en plus. Chaud, froid, tiède au milieu. Si tu étais comme à Hierapolis, bouillant, on pourrait discuter. Si tu étais comme à Colosse, froid, on pourrait discuter. Mais t'es au milieu, et t'es tiède. L'eau qui arrive chez toi, elle est dégoûtante. Et comme l'eau qui arrive chez toi est dégoûtante, eh bien, tu me dégoûtes. Et comme tu la craches, ben moi je vais te cracher aussi. C'est très très fort. La première fois que je suis allé là-bas, quand la guide nous a expliqué la chose, j'avoue que ça m'a profondément marqué, parce que jusque-là, je ne connaissais pas, eh bien, cet aspect. L'image est suffisamment pertinente pour que chacun comprenne l'état de sa médiocrité. Le dégoût que lui inspirait cette eau se trouvait être le même que celui que le Seigneur ressentait sur l'état spirituel, eh bien, de ces gens. Puisses-tu être froid ou bouillant? Non seulement il marque son étonnement, mais il souligne son indignation. Et ça, c'est très important. Établir le contact avec quelqu'un de bouillant, bon, il n'y a pas de problème particulier, on discute. Établir le contact avec quelqu'un de froid, c'est possible. Parce que cette personne va dire, je sais pas, j'y crois pas, mais bon, elle peut être disposée à écouter, à discuter. Peut-être à dire, oui, mais ça c'est ce que vous pensez, moi je pense pas tout à fait pareil. Donc on va lui dire, oui, mais quand même, peut-être que vous avez raison. Bon, au départ, c'est quelqu'un qui est complètement ignorant des choses de Dieu, il est froid, mais on peut établir un dialogue. Celui qui est tiède, c'est compliqué parce qu'il a toujours raison. Et c'est ce que nous avons cité. va voir la personne, on dit, ben, frère, ça fait 6 mois qu'on vous a pas vu, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais pasteur, vous faites pas du souci. Vous savez, moi, je prie continuellement, je lis ma Bible, Et à l'écouter, il est presque plus spirituel que tous ceux qui viennent fidèlement. Sauf que l'expérience nous a démontré en tant que pasteur que ceux qui tiennent ce type de raisonnement, quelque temps plus tard, ben, en fin de compte, ils sont creux comme un arbre pourri. Hein. Ils essaient de se rassurer et dans le fond, ils rassurent personne, ils se rassurent même pas eux-mêmes. Ils mettent en avant des choses qu'ils aimeraient faire, qu'ils aimeraient vivre, mais qu'ils ne font pas, qu'ils ne vivent pas. Et au bout du compte, les circonstances de la vie mettent en lumière ce qu'est leur véritable état. Ces gens se complaisent dans l'illusion, dans le rêve. Ils s'imaginent, ils supposent. Mais la vie chrétienne, c'est plus sérieux que cela. Donc il sera dit, je te vomirai de ma bouche. Et vous notez, le Seigneur s'exprime au futur. Je te vomirai, non pas je te vomis, tout de suite, là, sur le champ. Je te vomirai. Parce qu'il donne une possibilité de se ressaisir, de se rétablir, de remettre de l'ordre. Et ça, c'est toujours le principe de Dieu. Dieu offre toujours une possibilité de se ressaisir, de remettre de l'ordre et de repartir sur de bonnes bases et dans de bonnes dispositions. Illusion de l'Église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Elle est satisfaite d'elle-même. Il y a une partie de vérité quand même. Je suis riche, ça c'est vrai. Je me suis enrichi, ça c'est vrai. J'ai besoin de rien, ça c'est faux. Je suis riche. Bon, je pourrais dire, pour ce qui me concerne, je suis riche. Bon, ben, avant que je fasse mon expérience avec Dieu, que je m'engage avec Dieu, je ne savais rien des choses de Dieu. Et non seulement je savais rien, mais je voulais rien savoir. Donc j'étais pauvre. Je l'ai rencontré. Je suis devenu riche. Au fur et à mesure, je me suis enrichi. Maintenant, si aujourd'hui je dis, j'ai besoin de rien, là, je me trompe. Parce qu'on a toujours besoin de quelque chose. On a besoin d'affermir, de consolider ce que l'on a. On a besoin de ne pas le perdre. Nous l'avons cité, retiens ce que tu as. Et on peut en rajouter. Parce que dans le fond, on ne connaît pas tout. Même si on a fait de formidables expériences, on ne les a pas toutes faites. Et Dieu est encore capable de nous étonner. Il est encore capable, eh bien, de nous surprendre. Vous connaissez ce texte des Corinthiens, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est très important. Elle n'avait plus d'amour à offrir à Dieu parce qu'elle s'aimait trop elle-même. J'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas, je te conseille. Et Dieu est délicat. Il ne dit pas, je t'ordonne, je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi. Les gens de Laodicée sont confrontés à la réalité, et quelle réalité ? Malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est un sacré tableau, ça. Hein? Et on se demande quand même comment ils ont pu faire en se regardant dans une glace sans se rendre compte qu'ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. J'ai besoin de rien. Et pourtant, la description que Dieu fait, ça n'a rien à voir avec ce que eux s'imaginent. Et j'y reviens, puisqu'on l'a cité plusieurs fois, quand nous partageons la scène le dimanche matin. C'est important de se mettre devant le miroir de Dieu, pour tenter de se voir comme Dieu pourrait nous voir, afin de pouvoir, eh bien, régler, réparer, rétablir ce qui aurait besoin d'être réglé, d'être rétabli, d'être remis sur pied. C'est important, ça. Et c'est pas, disons, une sorte de condamnation, c'est un conseil, je te conseille. Et tu verras que tu iras mieux. Et ça, c'est important. Le conseil de Dieu est là, la grâce de Dieu est bienfaisante, l'obéissance à la parole de Dieu sera une source de bénédiction. Et à la Odyssée, puisque nous l'avons dit pour débuter, eh bien, l'histoire de l'or, des vêtements, du collyre, ils connaissaient. Puisque nous avons dit que c'était une ville où il y avait une industrie textile pour ses tapis, ses vêtements, en laine de Phrygie, il y avait des cures thermales, il y avait une école de médecine renommée pour soigner les yeux. Et quand Dieu leur parle, eh bien Dieu se sert de choses que eux ils connaissent parfaitement, qu'ils ont sous la main, qu'ils pratiquent. Il y en a qui sont des ouvriers dans ces usines-là, d'autres qui en sont les cadres, d'autres qui en sont peut-être les patrons, je ne sais. Donc en fin de compte, c'est très pratique. Comme pour l'histoire du froid bouillant tiède, c'était très pratique. Là aussi, c'est extrêmement pratique. Et vous savez, l'évangile, dans le fond, c'est toujours pratique. C'est pas une haute spiritualité qui est juste réservée à quelques élites. Quand l'évangile dit que le mari aime sa femme, c'est pratique ça, non? Que la femme respecte son mari. Que les enfants obéissent à leurs parents, que les pères n'irritent pas leurs enfants, etc., etc. Je veux dire, c'est très pratique. C'est le message de l'Évangile. C'est pas là-haut, dans je ne sais quoi. Non, non, c'est du quotidien. Et Dieu est celui qui veut nous aider. Alors, de l'or éprouvé par le feu. C'est seulement quand l'Église achètera l'or et l'argent de la parole de Dieu, de la vraie foi, de la position de victoire en Christ, qu'elle prendra conscience de l'inutilité des valeurs éphémères sur lesquelles elle s'appuie si volontiers. Pierre, sur les marches du temple, à proximité de la porte appelée la Belle, pourra dire « Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. » Étendant sa main, il saisit l'homme paralysé, âgé d'une quarantaine d'années, et lui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme, il se lève. Il marche. Il court. Il entre dans le temple et il saute. Il n'avait ni or ni argent. Mais il savait la puissance et l'autorité qui se trouvaient dans le nom de Jésus-Christ. Les vêtements blancs. À ceux qui s'enrichissaient par l'industrie textile, le Seigneur proposait des vêtements. Dieu voyait la nudité des christianisés de la ville et il leur offre le vêtement blanc de la justice en lui. On peut toujours se coller des étiquettes. Mais les étiquettes, vous savez, un peu d'humilité, ça se décolle, hein. C'est pas les étiquettes qu'il faut. C'est la bonne odeur de Jésus-Christ, ce qui se dégage de notre personne. Un jour, il y a des enfants, ils ont vu le pasteur de la ville en train de faire du bricolage. Et il était en train de clouer des planches. Alors ils se sont assis et ils l'ont regardé. Puis au bout d'un moment, le pasteur, il a vu que les gamins le regardaient, et il a dit, mais pourquoi vous me regardez? Il dit, pasteur, on attend de voir quelle sera votre réaction quand avec le marteau, vous allez vous taper sur votre doigt. Alors,
C'est une grande vérité, ça, hein. Quand vous êtes en train d'essuyer votre vaisselle et que le verre vous échappe et qu'il tombe là, comment vous faites? Quel mot vous employez? Enfin, ne le dites pas très fort. Eh oui. Oui, la dame, elle dit, moi, j'essuie jamais la vaisselle, c'est mon mari, c'est ça? D'accord. Mais, voilà. Et je crois que c'est quand même important. Le collyre. Il y avait de graves troubles visuels chez ces gens. Et il fallait qu'ils se soignent. Alors, au niveau des yeux, on peut être presbyte. C'est-à-dire qu'on aperçoit nettement ce qui est éloigné. Et on néglige, en fin de compte, dans la vie chrétienne, ce qui est le quotidien. Il y a les myopes. Nous ne voyons que ce qui nous touche dans l'immédiat. Après, le reste, c'est pas moi. On est insensible à tout ce qui peut arriver aux autres. Il y a les astigmates. C'est une intensité de vision irrégulière, une connaissance floue et déformée des réalités. Puis il y a le strabisme. C'est plus disgracieux. Ne plus regarder droit devant nous. On louche un peu le Christ, un peu le monde. Et ça, ça a besoin d'être soigné. Et seule la grâce de Dieu peut porter remède à ces défauts de vision et de vision spirituelle. En un mot, il y a un manque de discernement majeur. Et moi, il y a une parole dans l'Écriture que j'aime beaucoup et qui concerne la tribu d'Issacar. Il est dit concernant Issacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'était la particularité de cette tribu. Et j'aimerais avoir l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Comment il faut s'y prendre pour atteindre notre génération? Bien sûr, le message, c'est toujours le même. Il n'y a pas de problème. Mais comment atteindre les gens? Les gens qui sont dans un rythme de vie, qui ont leur agenda qui est surbooké, les gens qui sont depuis quelques années, et plus ça va, plus ça progresse, captifs des réseaux sociaux, ils passent des heures sur les réseaux sociaux. Pour ce qui me concerne, personnellement, je me suis interdit d'avoir Facebook. Donc ne me cherchez pas, vous ne me trouverez pas sur Facebook. Ça n'empêche pas que sur d'autres... Disons sur d'autres applications, sur les mails, etc., on reçoit des courriers et puis il faut répondre. Et comment atteindre ces gens? Parce qu'ils vont pas venir à l'église aussi facilement qu'on pouvait les amener autrefois. Autrefois, il y en a même, on leur disait tu viens, ça leur faisait un dimanche après-midi une sortie. Et au départ, ne serait-ce que pour sortir, prendre l'air, ma foi, ils venaient à la réunion. Et puis, Dieu leur parlait, Dieu les touchait. Mais aujourd'hui, pour sortir, prendre l'air, non. Ils sont enfermés dans leur chambre, ils sont là devant le petit écran. Et puis, ils dialoguent avec des dizaines de personnes, ils connaissent des tas de gens au bout du monde. Mais en réalité, ils sont tout seuls. Comment les atteindre? Alors je sais qu'il y a aussi des moyens par les réseaux sociaux, par des applications, Internet, pour les smartphones, etc. Et Evandis, un département média de nos assemblées, que j'ai l'honneur de présider, eh bien propose cela pour essayer d'aller dans le secret de la chambre, là, sur le petit écran, ou sur le téléphone, eh bien interpeller les personnes. Avoir l'intelligence des temps. Essayez de comprendre, essayez de voir, essayez de discerner. Que Dieu puisse nous aider à ne pas être malade de ces maladies et à prendre le collyre de l'Écriture pour que nous ayons une bonne vision. Seul le collyre de sa vérité peut apporter la guérison.
Alors, il est dit, « Et donc du zèle, et repens-toi. » Il y a encore une chance, il y a encore une possibilité, il y a encore une possibilité de rattrapage. Admettre, reconnaître. Pas aussi simple que ça. David l'a fait, puisqu'on a parlé de lui tout à l'heure. Et il va dire, j'ai péché, de sorte que tu seras juste dans ton jugement. Autrement dit, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas faire, je l'accepterai. Saül a désobéi. Bon, c'est pas à la mesure, humainement parlant, de ce que David a fait. Mais il a désobéi quand même. Et quand il a été placé devant l'évidence, lui aussi va dire, j'ai péché, mais garde-moi une place parmi les anciens. J'ai péché, pardonne-moi, mais surtout que je perde pas la face. Et en fin de compte, il s'est suicidé. Il s'est jeté sur le Gilboa, sur son épée, et sa tête a été placée à l'entrée de la ville de Beth-Shean. David a dit, j'ai péché, mais ce que tu vas décider, je l'accepte. Et en fin de compte, il l'a accepté, mais ça n'a pas été facile. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, vous savez, Dieu a pardonné David, eh bien, il peut me pardonner, bien sûr. Mais est-ce que vous avez vu ce que David a enduré? Et il y a un principe chez les Juifs, c'est qu'il fallait rendre au quadruple. Quand Zachée dit « si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple », ça faisait partie de cette tradition juive. Et David, en quelque part, en quelque sorte, il a payé au quadruple. Déjà, l'enfant né de cette union est mort. Faut l'oublier quand même. Et les trois autres, Absalom, etc., ça n'a quand même pas été simple. Hein. Ça a été très compliqué. Dans sa vie familiale, il a rendu au quadruple. Alors ne prenons pas simplement le fait « Dieu a pardonné David, donc pas de problème, moi Dieu il va me pardonner aussi ». Bien sûr qu'il peut nous pardonner. Mais le pardon n'enlève pas parfois les conséquences de la faute. Il y a des fautes où il n'y a pas vraiment de conséquences matérielles, humaines, puis il y en a, ben, il y a des conséquences. Hein. Et on n'y peut rien, ça n'empêche pas qu'il y a le pardon de la faute elle-même, mais les conséquences. C'est pour ça que on dit vulgairement qu'il ne faut pas jouer avec le feu, parce qu'on finira par se brûler. Et David va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur était semblable à la sécheresse de l'été. Alors j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il était complètement déglingué, moralement, spirituellement, physiquement. Il gémissait. Il était dans une sorte de forme dépressive, ses os se consumaient, son corps était là, malade, et rien n'allait. Mais il dit bien, tant que je me suis tu, tant que j'ai tourné le dos à Dieu, tant que je me suis replié sur moi-même, tant que j'ai tenté d'échapper à la communion avec Dieu, rien n'a marché. Alors j'ai dit, je vais admettre, je vais reconnaître. Et tu as effacé la peine de mon péché. Être capable d'admettre, de reconnaître, c'est ce qui apporte le baume de Dieu, le bienfait de Dieu, et qui nous permet, eh bien, d'être relevé. Et malgré ce que David a fait, dans ce qu'on a décrit entre autres,
La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et être selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas être canonisé demain. Être un super saint, être au-dessus du lot, non, il était un homme comme tous les autres. Mais il a été entre autres capable de reconnaître ses torts, d'admettre, sans tergiverser. Et ça, ça fait un cœur selon le cœur de Dieu. Je termine. Il y a un dernier appel qui est fait. C'est au verset 20. Il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Là, nous voyons toute la délicatesse de Dieu, toute sa sensibilité, toute son, si on peut employer ce mot, toute son éducation. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, et s'il ouvre, j'entre. Et si la porte ne s'ouvre pas, Dieu n'est pas membre du GIGN, et recule pas de 3 pas pour enfoncer la porte et dire « Je suis là, qu'est-ce qui se passe ?» Non, si la porte ne s'ouvre pas, ben j'irai frapper à une autre. Quelle délicatesse! Quelle délicatesse! Dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, il y a le tableau de Holman Hunt qui illustre cette scène. Et quand l'artiste a achevé son œuvre et qu'il y a eu le vernissage, quelqu'un lui fit remarquer, « Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte. » « Non, répondit le peintre, relisez le texte. Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Ainsi, la poignée se trouve à l'intérieur. » Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut interpréter le texte. En principe, il y a des deux côtés, hein. Mais un artiste est un artiste, et pour lui, il a exprimé cette vérité et il l'a appuyée. C'est le pécheur qui ouvre la porte. C'est pas le Seigneur. Le pécheur n'a pas à dire « Entrez !» Non, il fait la démarche d'ouvrir la porte et d'accueillir. Ne serait-ce que déjà en faisant lui-même la démarche, il se prépare à l'accueil. Parce que même dire « Entrez !» La porte s'ouvre et le Seigneur « Ah, c'est toi ?» Voilà, parce qu'on peut, si quelqu'un frappe, s'imaginer que c'est je sais pas qui. Et quand on voit la personne qui entre, on s'attend à quelqu'un d'autre, on croyait que. Parce qu'on a une familiarité avec la personne qui a l'habitude de venir les mêmes jours, les mêmes heures, on lui dit entre, entre. Puis on continue à faire ses affaires. Non, tandis que là, c'est une démarche. On est prêt à accueillir la personne qui vient de frapper. Et la démarche, c'est toujours nous qui devons la faire. Bien sûr, le Seigneur va venir à notre rencontre par divers moyens, mais à un moment donné, la décision finale, elle nous appartient à nous et à personne d'autre. Et ça, c'est important. L'obéissance à la parole de Dieu est une source de bénédiction remarquable. Je souperai avec lui et lui avec moi. Un tête-à-tête avec le Seigneur. Vous pouvez faire plaisir à quelqu'un et vous lui dites, voilà, je serai content de vous accueillir à ma table. C'est de la convivialité. Eh bien, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais pas m'asseoir là et puis manger le repas et lui va me regarder. Non, on va partager, on va se retrouver en quelque sorte presque à égal. Et il est dit, celui qui vaincra, eh bien je le ferai asseoir avec moi. Et Dieu souhaite que nous soyons des vainqueurs et il met tout en œuvre pour que il en soit ainsi parce qu'il nous connaît. Et il sait que nous avons nos propres faiblesses, nos propres lacunes, que nous avons notre bonne volonté, mais qui parfois n'est pas suffisante. Mais il est un Père qui agit avec délicatesse. Et je pense, pour terminer, à l'expérience de l'apôtre Pierre, lorsque il était en prison. Alors je cherche le passage. Quand il a été délivré de la prison, alors où est-ce que ça se trouve? Acte combien? Je comprends pas. 12? Si loin. Ah oui, c'est là. Alors, voilà. Donc, il est emprisonné. En fin de compte, il est menacé de mort. Et puis, un ange du Seigneur, c'est acte 12, 6, survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et des sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Quelle délicatesse. Quelqu'un qui est emprisonné, qui est menacé de mort, ses chaînes tombent, la porte s'ouvre, tu pars tout de suite, hein. Tu t'échappes, tu cours plus vite possible et tu vas le plus loin possible. Et là, on lui dit, attends, mets tes chaussures parce que ce sera plus facile. Et puis, mets ta ceinture pour tenir de ta tunique et puis oublie pas ton manteau parce qu'il fait pas chaud dehors. Moi, je trouve ça remarquable. Il y a le miracle, la porte qui s'ouvre, les chaînes qui tombent, les gardes qui voient rien du tout. Et il lui dit surtout, oublie pas de mettre tes chaussures parce que tu vas te blesser les pieds, oublie pas ta ceinture et puis il fait froid, mais mets ton manteau, hein. Enfin, pas comme ça. Je trouve que c'est vraiment délicat. Et ça, c'est notre Dieu qui agit avec la même délicatesse. Parce que des fois, on est capable de partir, et tu vas où? Ben, dans le fond, je sais pas où je vais. Et Seigneur, il dit, mets tes chaussures, lasse-les bien, parce que la route va être longue, hein. Puis comme il fait pas chaud, tu veux mettre ton manteau, pas le moment que tu prennes un rhume. C'est un père. Et il faut que notre relation soit avec lui dans cette même vision. Je suis en relation avec celui qui est mon père. C'est pas le père Fouettard, c'est un père. De temps en temps, il peut peut-être me secouer parce qu'il veut m'éduquer, comme on a secoué nos enfants. Ben oui. Et il faut que nous considérions cela. Alors, nous sommes dans cette période de la fin, où l'action des croyants vis-à-vis des incroyants est de plus en plus étoffée, et ne perdons pas de vision, la vision que l'Église doit être une Église qui évangélise, une Église missionnaire, et puis que Dieu nous garde de tomber dans la routine et dans la tiédeur. Mais consolidons notre relation avec celui qui, par Jésus-Christ, est devenu notre Père. Amen. Hmm.